de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Économiste affirme que la délocalisation des usines est une opportunité pour l'Indonésie en pleine période de ralentissement économique. Ministre coordonnateur déclare que l'adhésion à l'OCDE aide l'Indonésie à sortir du piège du revenu intermédiaire. Région de Meranti explore la coopération économique avec le consulat de Malaisie. Ministre du Tourisme et de l'Économie créative, Menparekraf, soutient l'ICAV pour présenter un festival culinaire indonésien en Australie. Russie invite des observateurs indonésiens à l'élection présidentielle. Ministre du Tourisme et de l'Économie créative explore une collaboration potentielle dans le secteur MICE avec le Melbourne Convention Bureau. Et Malaisie espère que le nouveau président indonésien renforcera davantage les relations bilatérales. Bon, chers auditeurs, voici le nouvel incomplet. L'économiste et directeur du Centre d'études économiques et juridiques Celios Bima Yudhistira a déclaré que la délocalisation des usines est l'une des opportunités dont l'Indonésie peut profiter dans le contexte de ralentissement économique d'un certain nombre de pays partenaires clés. Selon lui, les efforts qui peuvent être faits sont de savoir comment détourner les investissements des pays en difficulté et les attirer vers l'Indonésie sous la forme de délocalisation ou d'expansion d'usines. Bima, cité par Antara Jakarta, a déclaré jeudi 22 février que le ralentissement économique dans un certain nombre de pays partenaires clés tels que la Chine, le Japon, la Corée du Sud et les pays de l'Union européenne pourrait avoir un impact sur les flux d'investissement en Indonésie. Il est donc nécessaire d'élaborer une stratégie visant à réduire l'impact de l'affaiblissement des économies de ces pays sur l'économie nationale. Il estime que cette forme de délocalisation d'usines peut être une priorité pour l'industrie des véhicules électriques. L'Indonésie dispose de ressources naturelles adéquates pour le développement de cette industrie. Le ministre coordonnateur de l'économie indonésienne, Erlang Hartanto, a déclaré que l'adhésion de l'Indonésie à l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, pourrait soutenir divers programmes prioritaires du gouvernement. Erlang Hartanto, à Jakarta, mercredi 21 février, cité par Antara, espère que l'adhésion à l'OCDE pourra soutenir les programmes prioritaires du gouvernement indonésien, notamment l'économie verte, la numérisation, le développement des ressources humaines, la bonne gouvernance et encourager l'Indonésie à échapper immédiatement aux pièces de revenus d'État intermédiaires. Il a également déclaré que ce processus pourrait être un catalyseur pour encourager une augmentation du revenu par habitant en Indonésie. Le secrétaire général de l'OCDE, Matthias Coman, a déclaré que la décision des membres de l'OCDE d'ouvrir des discussions sur l'adhésion de l'Indonésie était historique, car l'Indonésie était le premier pays d'Asie du Sud-Est à le proposer. Il a déclaré que l'OCDE espère que cette décision pourra aider l'Indonésie à poursuivre ses efforts de réforme pour réaliser sa vision de devenir un pays développé avec un revenu par habitant d'au moins 30 300 dollars américains en 2045. Le régent par intérim des îles Meranti, province de Riau, Asmar, a exploré mercredi les opportunités de coopération dans le secteur économique tel que le commerce international et les investissements au bureau du consulat de Malaisie à Pekanbaru. Comme l'a rapporté Antara lors d'une réunion avec le consul de Malaisie à Pekanbaru, Mohamed Hosni Shahiran bin Ismail, Asmar a expliqué les différents potentiels de la région des îles Meranti. Il a expliqué plusieurs produits de qualité supérieure appartenant aux îles Meranti, tels que le sagou, le café et la noix de coco. En dehors de cela, la distance entre les îles Meranti et la Malaisie n'est pas très grande. Il existe donc des opportunités très ouvertes pour le commerce international. Avec cette réunion, Asmar espère que le commerce via l'import-export direct du Meranti vers la Malaisie pourra encore augmenter. Parallèlement, le consul de Malaisie à Pekanbaru s'est engagé à soumettre une liste de produits susceptibles d'être exportés vers la Malaisie, y compris une liste de parties liées au gouvernement malaisien. Il espère que la Malaisie et l'Indonésie pourront pas seulement améliorer les relations entre leurs peuples, mais aussi les relations commerciales et économiques internationales entre les deux pays. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, chef de l'Agence indonésienne du tourisme et de l'économie créative, Sandiaga Uno, soutient le programme de l'Association culinaire indonésienne de Victoria Ikav, qui présentera en mars un festival culinaire indonésien intitulé Indonesian Street Food Festival 16 du 16 au 17 2024 au Queen Victoria Market, Melbourne, Australie. Un communiqué de presse reçu par Voice of Indonesia Jakarta mercredi 21 février indique que Sandiaga Uno, lors de sa réunion avec les membres de l'ICAV à Melbourne, a récemment déclaré que le festival indonésien de cuisine de rue était très important et conforme au programme du gouvernement visant à introduire des listes culinaires indonésiens à l'étranger. Selon lui, le gouvernement indonésien a lancé le programme Spice Up the World, lancé par le président Joko Widodo dans le but d'augmenter la commercialisation des épices indonésiennes ou des aliments transformés et des produits épicés. On espère donc qu'il pourra développer et renforcer la promotion des restaurants indonésiens à l'étranger. Sandiaga a expliqué plus en détail le festival indonésien des cuisines de rue lancé par l'ICAV vise à présenter les délices culinaires indonésiens au monde international. L'ambassadrice de la Fédération de Russie en Indonésie, Ludmila Vorobieva, a déclaré que son parti avait invité un certain nombre d'observateurs indonésiens à observer l'élection présidentielle en Russie en mars prochain. Vorobieva, lors d'une conférence de presse à sa résidence de Jakarta mercredi, a déclaré que les observateurs, notamment de la Commission électorale générale et du Parlement ainsi que de l'ambassade de Russie à Jakarta, avaient reçu des informations selon lesquelles une délégation du Parlement indonésien partirait pour la Russie. Selon Vorobieva, environ 500 à 1000 observateurs étrangers de plusieurs pays, dont l'Indonésie, devraient venir en Russie pour observer le processus électoral dans ce pays. La Russie organisera des élections présidentielles sur une période de 3 jours du 15 au 17 mars 2024, ce qui en fera la première élection du pays qui ne se tiendra pas en une journée. Par ailleurs, Vorobieva a également mentionné qu'un certain nombre de responsables du Parlement et de la Commission électorale générale de son pays étaient présents en Indonésie pour observer le processus de vote dans plusieurs endroits, comme à Bali, lors des élections du 14 février. Une délégation d'observateurs russes a déclaré que les élections en Indonésie se sont bien déroulées. Lors d'une visite de travail en Australie, le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, chef de l'Agence du Tourisme et de l'Économie créative, Sandhya Salahuddin Uno, a tenu une réunion avec des représentants du Melbourne Convention Bureau, MCB, pour explorer la coopération dans le but d'augmenter les visites touristiques internationales entre les deux pays, en particulier pour le segment touristique. Réunions insensitives, conférences et expositions, MICE. Dans un communiqué de presse reçu mercredi à Jakarta par Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, Sandhya, a déclaré qu'actuellement, le nombre d'arrivées des touristes étrangers en provenance d'Australie est assez élevé tout au long de 2024. Le nombre de visites touristiques australiennes en Indonésie atteindra 1 431 177 visites. Le potentiel de coopération discuté lors de la réunion comprenait la promotion, le partage des meilleures pratiques et la mise en œuvre du MICE vert vers un zéro carbone net dans le secteur MICE. Cet effort devrait renforcer le nombre de visites touristiques étrangères en Indonésie de 14,3 millions de visites en 2024. En dehors de cela, il existe de nombreux autres événements MICE potentiels au niveau international qui peuvent être encouragés à se tenir en Indonésie grâce à cette collaboration avec MCB. Le président du Conseil populaire malaisien, Tan Sri Dato' Johari Abdul, espère que le président indonésien nouvellement élu renforcera davantage les relations bilatérales entre l'Indonésie et la Malaisie. Tan Sri Dato' Johari, lors d'un entretien spécial avec Antara à Jakarta mercredi, a estimé qu'au cours de l'année à venir, les relations bilatérales entre l'Indonésie et la Malaisie dans divers secteurs, notamment le commerce, la sécurité alimentaire ainsi qu'un certain nombre de collaborations et d'échanges d'étudiants deviendraient mieux. Selon lui, les parlements malaisiens et indonésiens peuvent encourager d'énormes opportunités de coopération dans le secteur économique. Tan Sri Dato' Johari a en outre expliqué que les relations entre les peuples des deux pays sont actuellement très développées, avec de nombreux Indonésiens travaillant en Malaisie et vice-versa. Pour Chargé d'État, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui.
Oh, no. Chers auditeurs, bonsoir. Voici la queue diplomatique et pour le titre, Indonésie Timor-Leste établit une coopération dans le développement de coopératives et de MPME. Le ministère des coopératives et des petites et moyennes entreprises établit une coopération bilatérale avec le Timor-Leste pour renforcer les micro, petites et moyennes entreprises, MPME, ainsi que les coopératives afin qu'elles apportent davantage aux économies des deux pays. Cette coopération a été renforcée par la signature d'un protocole d'accord entre les deux pays qui s'est tenu à Jakarta mardi 20 février. Le ministre des coopératives et des petites et moyennes entreprises, Teten Mas Duki, a déclaré que la portée de la collaboration comprenait un engagement à développer le renforcement des capacités, des partenariats entre coopératives, des études de faisabilité liées au développement du potentiel commercial des coopératives et des PME, des formations et des visites d'échange, ainsi que le renforcement de PME et des programmes de coopération grâce à la coopération régionale. Selon Teten Mas Duki, cette collaboration ouvrira de larges opportunités aux coopératives et aux MPME des deux pays pour apprendre les unes des autres, échanger des informations et se développer. Il a déclaré qu'à l'avenir, le gouvernement indonésien et timorais pourrait évaluer conjointement certains secteurs qui pourraient être développés par les coopératives et les MPME afin de renforcer la coopération existante. Il espère également que ce mémorandum d'accord pourra être bien mis en œuvre et que toutes les parties pourront bien profiter de cette opportunité et en cas de succès, il pourra être poursuivi pour la prochaine période du mémorandum d'accord. Par ailleurs, le secrétaire d'État chargé des coopératives de la République démocratique du Timor-Leste, Arsenio Pereira da Silva, a déclaré que la signature du protocole d'accord faisait suite à la précédente réunion entre l'Indonésie et le Timor-Leste lors du sommet des entreprises inclusives de l'ASEAN 2023. Da Silva espère que grâce à cette collaboration, sa partie pour apprendre à développer les MPME et les coopératives afin qu'elles soient plus fortes et puissent croître ensemble dans la région de l'ASEAN. Ces états, c'était la clé diplomatique pour ce soir. Ces états, bonsoir, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement la Journée mondiale du scoutisme. La Journée mondiale du scoutisme est célébrée chaque 22 février. Cette commémoration coïncide avec l'anniversaire du père du scoutisme mondial, Baden-Powell. Baden-Powell est le fondateur du mouvement scout à travers le monde qui a été le pionnier de la naissance du mouvement scout. Cette première organisation scout a été fondée pour les garçons sous le nom de Boy Scout en 1908, suivi par une organisation scout pour les filles en 1912 sous le nom de Girl Scout. Depuis l'existence de cette organisation, le mouvement scout s'est fait connaître dans le monde entier, y compris en Indonésie. Le mouvement scout a été introduit pour la première fois en Indonésie pendant la période coloniale néerlandaise sous le nom de Nederland Indische Padwindersvereniging, ce qui signifie l'association scout des Antes orientales néerlandaises. Passons maintenant à l'événement du 20 février 1957, le premier président du Sud vietnamien survit à une tentative d'assassinat. Le premier président de la République du Vietnam au Sud Vietnam, Ngo Dinh Diem, a survécu à une tentative d'assassinat par des communistes Viet Cong à Ban My Tho le 20 février 1957. Cependant, le 10 novembre 1963, Ngo Dinh Diem fut tué lors d'un coup d'État lancé par l'armée sud-vietnamienne. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement sur le journal de l'Istiqlal. Istiqlal a été créé dans le cadre du projet de construction de phare du premier président d'Indonésie, Sukarno, avec la pose de la première pierre le 24 août 1961. La mosquée qui se trouve au cœur de Jakarta a été inaugurée par le président Suharto le 22 février 1978. Istiqlal jusqu'à présent est toujours répertorié comme plus grande mosquée d'Asie du Sud-Est. Cette mosquée peut accueillir jusqu'à 200 000 fidèles pour y effectuer des prières. La mosquée Istiqlal est aussi l'incarnation de divers symboles. Le nom Istiqlal vient du mot arabe qui signifie liberté. C'est l'histoire, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Awalnya biasa, tapi lama-lama jadi tabi. Biasa melihatmu, awalnya biasa, tapi lama-lama jadi salah. Tingkah di dekatmu, awalnya biasa, tapi lama-lama jantung. Terbiasa jalani setiap hari bersama. Lalu ku jadi suka. Awalnya biasa, tapi kamu di hidupku. Awalnya biasa, tapi lama-lama ku selalu menunggu pesan dari kamu. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama. Lalu ku jatuh cinta. Ku jatuh cinta. Ku jatuh cinta.
C'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Sécuritaire, bonsoir. Pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie ayant pour le titre. Le ministère de l'Environnement et des Forêts prépare un programme visant à soutenir l'exploitation minière des déchets comme source d'énergie. Le gouvernement prépare un programme visant à soutenir la réduction des déchets, y compris l'exploitation dans les décharges, son utilisation pour l'énergie et l'optimisation du fonctionnement des banques de déchets dans le pays. Lors d'une discussion commémorant la Journée nationale de sensibilisation aux déchets ASPSN 2024, à laquelle a participé en ligne depuis Jakarta mercredi, la directrice générale des ordures, des déchets et de la gestion B3 du ministère de l'Environnement et des Forêts, KLHK, Rosa Vivienne Ratnawati, a déclaré que des efforts productifs devaient être faits pour réduire les déchets qui finissent dans les décharges et réduire ce qui est accumulé dans les zones ouvertes. Selon elle, le ministère utilisera la technologie pour réaliser l'exploitation minière des décharges afin que les déchets puissent être transformés en source d'énergie. L'exploitation minière dans une décharge est une exploitation minière dans la zone inactive d'une décharge présentant les caractéristiques de déchets décomposés. Les déchets qui ont été déversés peuvent être utilisés comme matière première pour le combustible dérivé des déchets en remplaçant du charbon. L'un des types d'exploitation minière des décharges a commencé à être réalisé sur le site de traitement intégré des déchets de Bantar Gebang à Jakarta. En outre, le ministère de l'Environnement et des Forêts considère également d'utiliser le composant provenant des déchets organiques collectés dans les banques de déchets pour l'utiliser dans diverses zones forestières. En effet, l'un des problèmes auxquels sont confrontées les banques de déchets est l'existence d'acheteurs ou de parties qui récupèrent les bénéfices des banques de déchets pour les distribuer à l'industrie ou à des parties qui ont besoin de matières premières recyclées. À cette occasion, le ministère de l'Environnement et des Forêts a également lancé le guide des banques de déchets pour soutenir les opérations des banques de déchets dans le pays qui peuvent répondre aux normes et aux demandes d'utilisateurs de l'industrie de recyclage. En effet, l'industrie de recyclage exige une cohérence dans la quantité de déchets triés et des matières premières qui sont incluses dans la catégorie propre et non mélangées avec des déchets organiques et inorganiques. C'est Jolitor, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Apapun yang singgah tak pernah bisa menggantikanmu. Tumbuh dewasa bersama janji untuk saling setia atas nama cita-cita jarak memisahkan kita. Semua berubah tanpamu, sulit rasanya apapun yang singgah tak pernah bisa menggantikanmu.
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Chers auditeurs, si vous voyagez à Kutai dans le Kalimantan oriental, n'oubliez pas de goûter sa cuisine typique, le nasi bekepor ou le riz bekepor. Ce délice était autrefois connu comme la nourriture des nobles et des rois. À cette époque, le riz bekepor était un menu spécial, souvent servi lorsque le roi de Kutai recevait la visite d'un invité d'honneur. Dans la langue Kutai, bekepor signifie « bouger » ou « tourner ». On l'appelle le riz bekepor en raison de la façon dont il est cuit sur un poêle à bois, puis tourné en remuant pour qu'il cuise uniformement. Ces auditeurs, nasi bekepor ou le riz bekepor est cuit sur du charbon de bois en mélangeant du riz mi-cuit avec des feuilles de basilic, des piments, du jus de citron vert, de l'huile végétale et des morceaux de poisson salé dans un grand chaudron. Le riz bekepor est moelleux, mais sa couleur est un peu pâle et grasse, car il a été mélangé avec de l'huile et diverses épices. Il a un goût savoureux et délicieux, avec un arôme appétissant d'épices. Nasi bekepor ou le riz bekepor est généralement consommé avec plusieurs plats d'accompagnement tels que la viande assaisonnée de sauce soja, la soupe d'aubergine aux oignons d'ayak, la crab oven, le gangan asam aux légumes aigres cuits avec des têtes de poisson et des patates douces et le jjenche ruang, sauce chili frite typique du Kalimantan oriental. N'oubliez pas le sambal raja, l'accompagnement parfait pour manger du riz bekepor. Cette sauce chili est composée d'un mélange de 6 ingrédients, sauce chili aux aubergines frites, haricots longs, ciboulette, œufs à la coque, moutes, fish, crevettes bouillies et mangue cuinie. Le riz bekepor est vendu dans le restaurant de Kutai au prix d'environ 25 000 à 30 000 rupiah par portion. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci de votre fidélité. À demain.
Ketakutan yang melemahkanku dikala jadi kenyataan. Tak akan ku ragu untuk terus melangkah, karena cinta perjuanganku tak sia-sia. Sepenuh hatiku dayaku telah aku kerahkan, yakin dan percaya. Walau ragaku bergetar hebat, ku tetap di sini.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le programme L'Indonésie en couleur, intitulé Le programme de Link Trip. PT Citylink Indonesia et Association de Retour au Tourisme en Indonésie ou Kembarin ont collaboré pour lancer le programme de Link Trip. Le ministre du Tourisme et de l'Économie Créative, M. Sandiaga Uno, a apprécié l'initiative de Citylink et l'Association du Retour au Tourisme en Indonésie qui ont présenté LinkTrip come une plateforme proposant des forfaits de voyage complets vers diverses destinations en Indonésie. Il espère également que cette collaboration pourra soutenir le programme du mouvement national d'être fier de voyager en Indonésie et atteindre le nombre cible de visites des touristes étrangers et nationaux. Monsieur Ivan F. Agus, le directeur du commerce et du cargo de PT Citylink Indonesia, a déclaré que le voyage organisé présenté à LinkTrip était un package complet comprenant les billets d'avion aller-retour, l'hébergement ainsi que les billets pour les attractions et les autres activités de la destination touristique. Certains des forfaits proposés sont les forfaits Bromo, le forfait Cap Gome, le forfait Sailing Komodo, le forfait du Mont Rinjani et le forfait touristique Banda Neira. Selon lui, cette collaboration est une forme d'engagement de Citylink pour faire progresser le tourisme indonésien. Citylink Indonesia organise également le programme de retour à la ville natale d'abord avec Citylink. Et le programme L'Aide al Fitr à Jakarta qui se déroule avant et après L'Aide al Fitr en proposant des prix spéciaux. Pour ce programme, la période de réservation peut être effectuée du 12 au 22 février 2024 avec une période de voyage du 19 février jusqu'au 31 mai 2024. LinkTrip est accessible sur le site citylink.co.id, LinkTrip et sur nos applications mobiles. Chers amis, c'est la rubrique L'Indonésie en couleur de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt.
Untuk dirimu, ku cintaku. kasihku.
Voice of Indonesia.
Tard, c'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson de Boomerang. Serge Itar, Boomerang est un groupe de rock indonésien originaire de Surabaya. Le nom originaire de Boomerang était Los Angeles, formé par Johannes Paulus Ivan en 1991. Il a officiellement changé son nom de Boomerang en 1994. même s'il changeait fréquemment de personnel, de nombreuses œuvres de ce groupe de rock sont devenues des succès, dont la chanson Kissa. Kissa est contenue dans le deuxième album de Boomerang intitulé K.O., sorti en 1995. Cette chanson, écrite par le chanteur Roy Diconia, raconte l'histoire de quelqu'un qui ne peut pas oublier les beaux souvenirs avec son ex-petit ami. Bonjour, je vais tard, voici la chanson intitulée Kissa, chantée par le groupe rock indonésien Boomerang. Bonne écoute!
Betapa ku merindukan saat-saat yang indah seperti dulu. Keinginan kau tahu, ku selalu mencintaimu. Buang keraguanmu, kau selalu di hatiku. Begitu banyak kisah kita alami, suka pun prahara melari di mentari, mengulang cinta kita berdua.
Bernyanyi lagi tentang cerita asmara.
Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.